La vie des revues. Aujourd'hui, la revue française de psychanalyse, numéro hors série sur les courants de la psychanalyse contemporaine. Ce numéro a été conçu sous la direction d'André Green, qui est notre invité, avec Daniel Vidlochet, président de l'Association psychanalytique internationale. La psychanalyse est plus que centenaire. Les psychanalystes ne forment plus la horde sauvage qui entourait un pionnier farouche. Elle ne sent plus le souffre et semble le regretter. Elle doit lutter contre les effets de stéréotypes liés à sa divulgation sans se scléroser, accepter son héritage, intégrer des symptômes jusqu'alors non explorés et aménager son cadre pour mieux y répondre. C'est avec l'ambition de confronter les réflexions actuelles sur la psychanalyse, André Green, que vous avez rassemblé les contributions des protagonistes majeurs de l'Association psychanalytique internationale, tant aux États-Unis qu'en Europe et qu'en Amérique latine, nous l'avons vu lors de la précédente émission. Pour cette seconde émission, j'aimerais qu'on aborde le débat théorique qui a traversé ce congrès et qui se retrouve condensé dans cet important volume de la revue française de psychanalyse. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous insistez, vous, et je crois que, André Green, je crois que vous avez voulu nous montrer qu'il y avait une tradition de remise en cause, y compris chez Freud. Vous avez tenu dans votre papier à réaffirmer la différence qu'il y avait entre l'interprétation des rêves, qui était le premier modèle de Freud, ce qu'on appelle la première topique, qui était centrée autour du concept d'inconscient, avec le rapport rêve, récit du rêve et interprétation des rêves. Vous avez tenu à montrer que c'était différent de la deuxième topique, le deuxième modèle, les pulsions, qui font partie intégrante de l'appareil psychique, le ça. On avait affaire jusqu'alors, nous dites-vous, qu'à leur représentation. Et vous voulez, je suppose que si vous nous avez confronté à cette évolution de la représentation de l'appareil psychique, c'est chez Freud lui-même, c'est pour vous autoriser à de nouvelles modifications. C'est pour montrer que la psychanalyse n'est pas quelque chose qui est figé et qui est détenu simplement dans la parole du maître, mais que le maître lui-même a, comme le dit Michel de Musan, été parfois hérétique lui-même par rapport à son propre travail.
Oui, je ne suis pas sûr que ce que je dise va dans le sens de ce que Michel de Musan a dit, mais moi j'irais même plus loin. Je pense qu'une lecture attentive de Freud, lecture attentive qu'on n'a pas faite, parce qu'en général les gens qui se sont livrés à la lecture attentive de Freud, c'était plutôt pour faire prévaloir leurs propres idées, je pense aux soi-disant au retour à Freud, qui était quand même surtout une manière de privilégier un certain Freud. Je pense que quand on lit Freud à partir de 1924, je crois que on peut très bien déceler, bon, Popov a tout inventé, nous le savons, mais Freud était quelqu'un qui, d'une part, comprenait vite, mais parfois déclarait qu'il n'avait pas la patience de s'attaquer à des problèmes qui lui déplaisaient ou qui le gênaient. Mais Freud a, je crois, prévu l'évolution de la population analytique, et il recommande même aux analystes dans ses derniers ouvrages de s'intéresser aux névroses graves qui ont conservé des liens avec la réalité, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des psychotiques, mais qu'il appelle, lui, des névroses graves, et c'est, à mon avis, une manière de prévoir l'arrivée sur nos divans de cette population dont l'importance s'est imposée pour tout le monde, ce qu'on appelle les cas limites. Donc, déjà, du temps de Freud, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui pointe, où il voit qu'il y a une modification, et je pense, moi, que c'est les modifications théoriques viennent avant tout de la prise de conscience qu'il fait à travers sa propre expérience et celle des autres de la fréquence de la réaction thérapeutique négative. Ça marche pas comme il voudrait. Bon. Et par la suite, bon, que ce soit avec Ferenczi, que ce soit avec Winnicott, plus ça va et plus la question se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Manifestement, ça n'est pas adapté. Et comment concevoir la théorie de tout ça? Et alors, évidemment, il considère qu'effectivement, les fixations dans l'organisation des pulsions, les régressions ne suffisent pas et il annonce toutes les études sur le moi. Et nous avons en France pris un retard considérable parce qu'il y a eu un anathème jeté sur des études sur le moi par Lacan. Bon, qui a à juste titre dénoncé le côté simpliste de ces études. Mais il fallait faire plus compliqué, il fallait pas dire c'est pas de ça qu'il faut pas s'occuper de ça. Donc il y a déjà là une ouverture et il y a déjà là une autre manière de comprendre des fonctionnements qui n'ont pas été prévus par Freud, par exemple l'importance des phénomènes transitionnels chez Winnicott, la faillite des phénomènes transitionnels, c'est-à-dire des phénomènes dans ce qu'il appelait l'ère intermédiaire entre le dedans et le dehors, qui n'existent pas chez Freud, qui sont des innovations. Il y a le rôle joué par la destructivité qui a été mis en valeur par Melanie Klein d'une façon très très marquée, très très importante. Et Daniel Vidlocher disait dans l'émission précédente qu'il y avait une relative interpénétration des courants. Je crois qu'il a raison, mais je crois que cette interpénétration est limitée et qu'il y a quand même des écoles qui campent sur leur position, comme par exemple...
Ça, vous ne referez pas les modalités de la pensée théorique.
Mais
Daniel Vidlocher.
Puis-je me permettre là de poser une question? Est-ce que précisément... l'opposition, le constat de quelque chose qui ne peut pas être interpénétré, n'est pas une source de réflexion aussi utile que lorsque l'on voit qu'on peut, en quelque sorte, trouver une voie commune. Je ne considère pas que les oppositions soient nécessairement négatives.
Non, hein? Mais leur discussion serait féconde.
Absolument.
Alors, Daniel Vidlocher, moi j'aimerais que vous répondiez à une question que vous vous êtes vous-même posée, quelle valeur accorder aujourd'hui au cas de Freud, puisque vous nous expliquez que la recherche doit se plonger dans la clinique, la recherche se nourrit de clinique. Qu'est-ce qu'on fait des cas, le petit Hans, Dora, l'homme au loup, l'homme au rat, qu'est-ce qu'on en fait? Vous qui nous expliquez qu'un cas n'est pas un fait, est-ce qu'il y a des cas aussi importants qui sont apparus que ces cas modélisés par Freud?
Alors, deux choses. Premièrement, le recours à des études monographiques de cas comme ceux de Freud n'est pas une opération qui a été absolument courante dans l'histoire du mouvement psychanalytique. Il y a des exemples nombreux, mais ils sont quand même, on peut les compter. Il y a les observations de Melanie Klein, il y a les observations de Kohout, il y a les observations de différents auteurs. Elles sont relativement repérables. C'est-à-dire que ça n'est pas la seule manière dont les psychanalystes ont parlé de la clinique. Je pense que les cas de Freud, comme tous les cas d'ailleurs, comme nos cas, sont des constructions, sont des modèles qui illustrent notre propre manière de penser à un moment donné dans une relation avec un auditoire à qui nous voulons faire passer un enseignement, une réflexion, une interrogation. Freud a fait passer à travers ces cas des interrogations qui restent encore actuellement utilisables à des fins didactiques et à des fins de recherche. Ça ne veut pas dire que nous ayons là des observations au sens naturaliste des termes sur lesquels nous devrions être d'accord. Un cas est une expérience, est un narratif d'une subjectivité qui implique deux protagonistes, celui de qui l'on parle et celui qui en parle, et de tout un environnement culturel qui est autour. Et par conséquent, le cas n'est pas à prendre justement comme un fait positif, mais bien comme un témoignage illustrant un mouvement de la pensée, et à entendre comme tel.
Freud avait besoin, parce qu'il était un pionnier, de s'appuyer sur des cas. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui.
Alors, je crois que Freud avait certainement plus de confiance dans l'objectivité du cas que j'en dis aujourd'hui. Je pense que lui avait quand même une foi positiviste, dirait. Il avait le sentiment qu'il disait la réalité du fait. Bon, appelons ça de la naïveté, appelons ça un certain état de la culture.
Positivisme.
C'est un fait. Je pense que maintenant, nous avons, lorsque nous parlons d'un cas, et même si c'est sous la forme de ce qu'on appelle une vignette clinique, l'illustration d'un moment, d'un échange de paroles de quelques minutes, n'est-ce pas, au cours d'une séance, nous n'avons pas le sentiment que nous racontons, que nous décrivons un fait objectif. Nous sommes en train d'extraire un moment de la pensée dont nous espérons que ceux qui nous écoutent feront en quelque sorte leur miel, aussi bien d'ailleurs en s'y opposant, en le récusant, qu'en l'acceptant. C'est la matière du débat.
C'est la matière du débat, mais est-ce qu'il y a des explorations qui ont l'envergure de celle de Freud aujourd'hui ?
L'envergure de Freud, elle tient à son génie.
Oui.
Pourquoi se fait-il que quand vous écoutez un exposé en séminaire ou ailleurs, sur un point de théorie ou de clinique, pour les Français, l'œuvre de Freud leur parle toujours. Ils ne disent pas que Freud a raison. Mais quand ils se réfèrent à Freud, ça soulève en eux des associations, des modes de pensée, des réflexions. Bon, or, on constate que souvent, ça n'est plus le cas aux États-Unis, qu'on considère Freud comme un penseur dépassé, qui s'est trompé.
Aux États-Unis ?
Sa métapsychologie ne vaut rien. Sa clinique est encore acceptable, mais sa métapsychologie ne vaut rien. Bon, alors, c'est là que ce à quoi Daniel Villachet faisait allusion peut peut-être jouer un rôle, la question de l'environnement culturel. La question, en effet, que cette place accordée à Freud dépend des discussions, des échanges. Nous avons une manière de parler de Freud qui fait que nous apportons une énorme contribution par notre imagination. Hein. C'est pas un savoir objectif que nous extrayons. Qui pour les autres, ça leur dit rien du tout. Ça leur dit rien du tout. Par contre, si on leur parle de la relation mère-bébé dans les 6 premiers mois, alors là, c'est...
Vous en avez contre cette relation.
C'est la passion et c'est l'explication. il a eu des mauvaises expériences avec la mère, le pauvre.
Mais alors, je voudrais justement vous opposer à cela le travail d'un latino-américain, un argentin, que vous avez publié, Isidoro Bernstein, qui... Il pense que la psychanalyse s'est surtout focalisée sur la formation du psychisme à partir des expériences dites primitives, c'est-à-dire la sexualité infantile, la relation au père et à la mère, le fameux complexe d'Oedipe. Et il dit qu'elle s'est beaucoup moins penchée sur les premières expériences au sein de l'environnement social, c'est-à-dire la rencontre avec l'école, les institutions, qui sont formatrices à leur tour de symptômes nouveaux et de problèmes nouveaux. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous iriez jusque-là ?
Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé.
André Green.
Oui, c'est pas ma tasse de thé. Isidore Bernstein est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect.
Oui.
Bon, c'est un penseur honnête, etc. Mais je pense que la question du social est une question très compliquée et qui demande qu'on la traite avec plus de précaution. Bien sûr que comment nier l'importance de l'expérience sociale, l'école, le milieu, etc. Encore faut-il situer le niveau où elle se structure et elle s'organise. Par exemple, je suis quelqu'un qui pense que l'adolescence n'est pas pensable sans l'introduction de la dimension sociale. Bon, c'est pas bon ça. Parler de l'adolescent sans parler de l'environnement social, de son environnement social, c'est vraiment une position idéaliste qui n'a pas d'intérêt. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de l'enfant, c'est autre chose.
Alors, moi, je voudrais.
Oui, Daniel Villachet.
Je pense qu'à deux, on peut répondre aussi d'une autre manière en disant que je ne pense pas que la psychanalyse est à tout dire de tout. Dire que l'influence de l'école, l'influence de facteurs sociaux, comme d'autres d'ailleurs, joue un rôle dans le développement.
Que nous ayons,
mais elles sont peut-être des expériences primitives, elles ne sont pas le propre, à mon avis, de l'investigation psychanalytique. Ce qui ne veut pas dire que dans une approche clinique, nous n'ayons pas à en tenir compte avec délicatesse, dans la mesure où c'est quelque chose qui interfère avec notre propre écoute. Je pense que vouloir assimiler tout ce qui se passe dans le développement de l'enfant au champ de la psychanalyse serait lui donner une prétention exhaustive à l'explication, à la compréhension de l'enfant, qui sera à mon avis un risque pour elle.
Donc vous restez très attaché à la conception d'une conception où c'est la sexualité infantile qui joue le rôle primordial.
André Guin parlait de la tasse de thé, moi je dis c'est ma méthode. Je crois que c'est asservi au même. C'est ma méthode de travailler. Je ne prétends pas avoir une méthode qui va porter sur tous les éléments de la réalité sociale ou de la réalité de toutes les réalités.
André
Green.
Là où j'apporterai un correctif à ce que vous dites, c'est que je pense que j'ai un horizon plus ouvert. Je considère que la sexualité infantile à laquelle vous faites allusion joue effectivement un rôle majeur dans ce qu'était la cartographie de Freud ou ses cibles analytiques dans la névrose. Concevoir la névrose sans la sexualité infantile, c'est vraiment perdre son temps.
Bien. Et dans les cas limites.
C'est là que effectivement entre en jeu d'autres facteurs. N'est-ce pas, où la sexualité s'intègre dans un ensemble, dans un enchevêtrement, c'est-à-dire de processus de pensée, de type, Daniel Vidlochet est très attaché à la notion de copensée, mais effectivement, on peut là s'intéresser aux relations de copensée entre l'objet et le moi, la façon dont sont intégrées les notions d'introjection, de projection, la façon dont se constitue justement le champ intermédiaire, le domaine de l'illusion, le fantasme, la destructivité, encore, comment aujourd'hui minimiser le rôle de la destructivité. Il se passe cette chose absolument extraordinaire que, là je sais que je peux me faire taper sur les doigts, les psychanalystes ont liquidé la question de la pulsion de mort, et que vous ouvriez la télévision, que vous regardiez le journal, que vous écoutiez la radio, il n'est question que de ça. C'est pas la peine de faire allusion à l'actualité. Hein. Bon, il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui, dans un article, parle de la fascination de l'autodestruction. Vous savez, dans un des articles publiés dans Le Monde, à propos des événements récents, on sous-estime la fascination de l'autodestruction. Donc, voilà des facteurs qui font que la sexualité infantile est quand même relativisée. Il est évident que, je vous dirais, mieux on va, plus la sexualité infantile joue un rôle important. Danser, refoulement.
D'accord. Mais je rapprocherai ces remarques d'une phrase de Jean Laplanche qui me paraissait intéressante, où il désamorçait d'une certaine façon la bombe qu'avait été la sexualité du temps de Freud, en disant qu'aujourd'hui, si on cherchait à décrypter le monde à travers la clé de la sexualité, on faisait chou blanc autant que quand on cherche à déchiffrer. C'est aussi facile et aisé, dit-il, que de déchiffrer le monde à travers la notion de lutte de classe. Il voulait montrer qu'il y avait une sorte d'érosion de la sexualité dans l'explication des choses. Daniel Vidlochet.
Moi, je ne le crois pas. Je crois que la sexualité infantile, ça reste le grand secret de la vie psychique de tous les individus pas trop malades. Et que ça, si c'était tellement désamorcé comme bombe, je me demande à quoi rêveraient les hommes. C'est parce que nous avons encore le temps de rêver que la sexualité infantile et que quelque chose de l'hédonisme primaire de l'enfant continue de vivre en nous. Alors, je ne pense pas que... ce que j'appelais dans un article récent, c'est encore un secret bien gardé, et c'est un secret qui est fondamental parce que c'est à la base de tout ce qui est l'hédonisme de la culture et l'hédonisme du rêve et de la vie.
André Green.
Contrairement à l'opinion très répandue,
je considère que la psychanalyse garde le même potentiel révolutionnaire que du temps de Freud. Les réactions sont moins apparentes.
Ça, c'est ce que vous voudriez?
Non, c'est pas ce que je veux. C'est ce qui existe en fait, mais ce qui exige des instruments d'analyse qui font évidemment qu'on constate que les gens ne sont pas ouvertement choqués, qu'ils disent oui, pourquoi pas, que dans les familles, il y a une plus grande tolérance, si le petit se masturbe, ou des choses comme ça, mais ça prouve rien. Ça prouve rien. La psychanalyse reste profondément rejetée par le milieu culturel.
Non, il est complètement imbibé, au point qu'il y a eu saturation.
Elle est profondément rejetée par le milieu culturel, et les esprits qui la comprennent et qui l'admettent sont très rares. Je citerai, caressant, une interview de Pierre Legendre dans Le Monde.
Ah oui.
Tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Mais d'une manière générale, je dirais qu'aujourd'hui, ça prend la forme de la sexualité, et alors?
Oui, Pierre Legendre disait d'ailleurs qu'il y avait une forme de légalisation du fantasme dans la société contemporaine. Donc, quand il disait ça, il reconnaissait bien qu'il y avait une sorte de prégnance de la psychanalyse.
Ah, une sorte de prégnance, non, puisqu'il dit que la loi consiste à valider des pratiques sociales. Ce sont des pratiques sociales qui imposent à la loi cette direction. Mais les pratiques sociales...
Mais ça a toujours été le cas, les mœurs précèdent la loi.
Reste à savoir si c'est le rôle de la loi d'entériner les pratiques sociales.
Vous parlez là de l'homosexualité?
Pas de l'homosexualité. Non, l'homosexualité, Pierre Legendre rappelle, et d'autres rappellent, que Freud était à cet égard d'un libéralisme entier, c'est-à-dire qu'il disait qu'il n'y avait aucune raison de mettre à part les individus homosexuels. Mais... il y a loin de là à au Pax, à l'adoption, etc., qui posent des problèmes qui sont en général posés de façon extrêmement, enfin, cavalière par les sociologues.
Mais alors, Daniel Videlochet, est-ce que pour vous, si tout le fond de la psychanalyse reste irrigué par la sexualité infantile, si c'est ça sa sève, si c'est ça vraiment sa nourriture, est-ce qu'elle n'est pas vouée à rabâcher?
Alors, d'abord, elle est la sève au niveau de l'individu, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans une situation individuelle, elle existe puisqu'il y a le rêve. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça va être la clé par laquelle nous allons traiter tous les patients. C'est ce que je pense que André Green a
bien expliqué,
tout à l'heure,
oui.
N'est-ce pas? Par conséquent, il y a beaucoup de travail à faire pour approfondir justement ce dans quoi s'intègre la sexualité infantile dans l'histoire
de
le
chacun.
Développement de chacun, pour faire face à la pluralité des pathologies, on peut dire, des souffrances auxquelles nous sommes amenés à répondre. Par conséquent, il y a encore du travail, c'est pas du tout une répétitivité de l'interprétation sexuelle, de la sexualité infantile, qui est le travail du psychanalyste.
Elle est à approfondir, et à voir autrement aussi.